parle de tout avec vous. De retour à Ni Noir Ni Blanc avec Élisabeth Crête et Guillaume Dulude au réseau Cogeco.
Ah, que ça va passer vite, cette émission-là.
Je sais.
On a passé
de temps. Je suis comme full d'adrénaline, ça arrête pas.
Ça va trop vite.
Next
on est
sujet.
Déjà passé au deuxième sujet. Puis celui-là, je veux dire, j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus parce qu'on va parler de la victimisation. Je le disais avant la pause, un thème qu'on a abordé à petite dose depuis le début de l'été parce que ça a été saupoudré dans différents thèmes, différents sujets qu'on a abordés. Et là, avant de parler de ça, il faut savoir en fait que le sujet, l'idée nous est venue parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont écrit pour dire « J'aimerais que vous donniez des trucs sur comment gérer une personne qui se victimise constamment dans notre entourage. » La personne en fait qui écrivait parlait, je pense, de sa sœur qui avait tendance à blâmer tout le monde et n'importe quoi pour tous ses problèmes. Et elle trouvait ça très lourd à porter. Puis en même temps, elle veut pas couper les ponts avec elle parce que c'est sa sœur. Et elle veut pas non plus l'encourager dans sa tendance à se victimiser constamment. Alors elle demandait comment on fait pour gérer une personne qui se victimise constamment. Okay. La question qu'on va vous poser avant que Guillaume rentre dans la théorie du sujet, là, on est très conscient que ça s'adresse à un faible pourcentage de la population puis que ça va demander vraiment une grosse introspection.
Mais on a besoin de vous, là, c'est
on
la finale.
On a besoin
là.
De vous. Est-ce que vous êtes une personne qui se victimise constamment? Êtes-vous une victime chronique, comme on pourrait dire, là, parce que c'est comme ça, en fait, le syndrome de la victimisation chronique, c'est comme ça que la personne qui nous a écrit nous l'avait proposé. Pour sûr que c'est très scientifique comme terme, mais quand même. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le phénomène de se victimiser constamment? Avez-vous tendance à blâmer tout l'environnement pour chacun des problèmes que vous vivez? Vous êtes encore célibataire, c'est à cause de tout le monde sauf vous. Vous avez des problèmes au travail, c'est à cause de tous vos collègues sauf vous. Est-ce que vous avez cette tendance-là? Si oui, appelez-nous 514-790-9 850 ou le 1-866-790-9850. Peut-être l'avez-vous été dans le passé et vous en êtes sorti. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Exactement.
On veut
comment
vous parler.
Le switch de mindset s'est fait?
Absolument.
Comment ça, parce que c'est vraiment c'est une vision du monde. Et à un moment donné, il y a certaines personnes à certains moments de leur vie et là, ils font le passage de « OK, je change le mindset ». Ça prend un courage énorme hein, parce que la victimisation, c'est une zone de confort, c'est une zone de détresse. Mais c'est aussi une zone de confort. C'est ça l'espèce de pogne un peu qu'il y a là-dedans. Là.
Alors, comment on fait, Guillaume, quand on a une personne dans notre entourage qui se victimise constamment?
Bon, là, je vais vous donner le truc de comment j'aborde ça. Excusez-moi. Et comment on fait pour se sortir de cette espèce de pattern-là de victimisation? C'est très résistant à la victimisation, comme je vous dis, parce que c'est tout un réseau de vision du monde, d'explication, d'attribution causale qui fait en sorte qu'une personne reste prise au piège. En gros, là, la technique, c'est si une personne découvre des forces ou des beautés qu'elle porte en elle, qu'elle n'avait pas vues avant, ça va être la seule et unique raison qui va faire en sorte qu'elle va délaisser son pattern de victimisation pour aller s'intéresser à quelque chose qui a plus de valeur pour elle, c'est-à-dire elle-même. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de semer l'espèce d'idée, de faire voir à une personne le potentiel qu'elle a, des forces qu'elle a, de la beauté qu'elle a, qu'elle ne savait pas, et que là, elle vient de s'en rendre compte. Et là, ça veut dire que des nouvelles responsabilités pour en prendre soin peuvent arriver. Et c'est ça l'idée. Lorsque la prise de responsabilité envers soi commence, la victimisation a tendance à s'estomper. Mais c'est impossible directement attaquer la victimisation. Ça ne se fait pas. La seule et unique façon, c'est un, on parle pas de victimisation, on parle du potentiel de la personne, le potentiel de sa vie, ce qu'elle peut accomplir, ses forces. Là, vous allez me dire, OK, mais comment on fait ça? C'est là où on a besoin de la psychologie. Et c'est pour ça que ça prend une expertise. C'est quoi les forces de la personne? Comment tu lui dis ça? Comment être capable de lui montrer qui elle est pour vrai, ce qu'elle se découvre, puis qu'elle retombe en amour avec elle, puis qu'elle fasse « Hey, sais-tu quoi? Je suis comme intéressé à aller plus loin dans l'exploitation de cette force-là. Je m'étais pas vu beau ou belle de même. » Ça prend absolument cette espèce d'idée-là de potentiel et de force qui va justifier la prise de responsabilité. Et là, on va se sortir, ça va être une espèce de towing à l'extérieur du fossé qui est la victimisation. C'est la seule et unique façon d'augmenter la prise de responsabilité. Tu peux pas juste dire, ben là, prends tes responsabilités. Le cerveau va dire, mais pourquoi? J'ai aucune raison de prendre des responsabilités. J'en ai aucune parce que je me trouve misérable, je souffre, je suis laid, je suis laide, j'ai aucun talent puis j'ai aucun avenir. Pourquoi je prendrais des responsabilités? Puis c'est normal. Quand c'est tellement dur la vie. Pourquoi tu prendrais des charges sur tes épaules sans bonne raison? Il n'y en a pas. Ça s'appelle de la torture. Donc, la première chose, c'est qu'il faut valoriser les gens stratégiquement, précisément. Et ça, ça doit être le but premier de la psychologie.
On a Kevin au téléphone qui veut nous parler. Bonjour, Kevin.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien. On vous écoute, Kevin.
Ben et voilà, moi, pour être très bref, là, je suis un ancien toxicomane. J'ai 25 ans aujourd'hui. Par contre, j'avais beaucoup tendance à être une victime là, parce que moi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un peu de problèmes de confiance en moi étant jeune. Donc, j'ai grandi un peu avec cette poque intérieure là qui a jamais su se développer. Puis, au-delà de toute ma vie, tu sais, moi, j'ai eu un enfant à 19 ans. Puis c'est vraiment, je vous écoutais tantôt. Puis, premièrement, bravo pour votre émission. C'est la première fois que je vous parle.
Merci.
Ça fait plaisir. Écoutez, c'est quand que j'ai eu ma petite fille Gabrielle à 3 ans aujourd'hui que non seulement j'ai arrêté la drogue, mais j'ai commencé à dire « Ok, je dois... j'ai une responsabilité maintenant. Mm-hmm. » Puis je n'ai pas le choix. Je n'ai que d'autre choix que de faire tout en mon pouvoir pour essayer d'être une bonne personne. Si c'est pas pour moi, tu sais, parce que une victime, quand on la victimisation, quand on est là-dedans, c'est vraiment, on se dénigre un peu au point. Et c'est pour ça que c'est la faute de tout le monde autour.
Oui.
Mais nous, on s'en fout de nous. Mais quand il y a un autre être qui est emmené sur cette terre grâce à nous, moi, je me suis senti un gros devoir de responsabilité d'être quelqu'un de bien, pas pour moi, pour cet enfant-là qui a pas demandé à être au monde, pour cet enfant-là qui a pas demandé d'avoir un père tout croche. Non, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut un père digne de ce nom, puis peu importe la richesse, peu importe qu'est-ce qu'on a dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on apporte à notre enfant le plus important. Puis c'est ça qui m'a fait vraiment décrocher, de dire, hey, écoute, t'es le maître de ta propre vie, arrête de blâmer tout le monde autour de toi pour tes échecs, arrête de blâmer toute la terre qui t'entoure. Oui, c'est une terre sans pitié, mais on est maître de sa propre destinée, puis il y a des choses tellement belles sur cette terre. Puis c'est en regardant ma petite fille de 3 ans que j'ai eu toute cette révélation-là. Puis c'est vraiment grâce à elle que maintenant, aujourd'hui, je suis capable de dire, Kevin, papa, il est capable de faire ça. Papa, il est capable de faire ça. Puis papa va faire ça pour toi.
Kevin, bravo. C'est extrêmement touchant de vous entendre. Puis j'ai goût de vous poser comme question. Si vous n'aviez pas eu votre enfant, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à 25 ans, vous seriez encore dans cette espèce de pattern-là?
Je vous parlerais même pas en ce moment. Je veux même pas imaginer. Puis vous avez totalement raison. Je veux même pas imaginer ce que je serais en ce moment sans l'aide de ma fille. Tu sais, puis j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité, mais j'ai un, comment on peut dire ça? Je suis fier. J'ai une fierté là-dedans de parce que j'aurais pu aussi bien dire, hey, j'ai un enfant, je suis pas prête, toxicomane, j'ai pas d'argent en poche, j'aurais pu tout laisser tomber, j'aurais plus facilement. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a donné la force, mais non, je serais pas là aujourd'hui pour vous parler de cette magnifique vie que j'ai en ce moment, puis que jamais je regrette ça pour rien au monde, puis que non, j'aurais pas le même parcours, puis j'en suis éternellement reconnaissant à la vie de m'avoir donné un enfant si magnifique, puis
Kevin, bravo. Je n'ai rien à ajouter que bravo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'appeler. Puis vraiment, c'est extrêmement touchant. C'est incroyable à quel point Kevin, sa vie a pris un tournant. Il y a eu une révélation quand il y a eu une responsabilité supérieure à sa propre vie qui
alors,
est arrivée.
Là, tu vois, on va juste décortiquer là, la méthode Kevin, OK?
Kevin.
Là, l'histoire, juste qu'on comprenne. Oui. L'idée, c'est pas si j'ai un enfant, là, je suis sauvé. C'est pas ça, le message. Le message, c'est que quand t'as sous les yeux quelque chose que tu te reconnais dedans, t'as un lien avec ça, et t'es émerveillé de beauté, ça te rend fort. Ça te rend capable de laisser des choses pour prendre des nouvelles responsabilités. Et c'est ça que Kevin a fait. Il a vu quelque chose qui était tellement magnifique, puis son cerveau, il sait, c'est sa fille, c'est un bout de lui. Donc, il y a une responsabilité par rapport à lui, par rapport à sa fille. Donc, pour prendre des responsabilités, ça prend des bonnes raisons. Et ça te prend une raison. Un enfant, c'est une bonne raison. Mais il y a plein d'autres bonnes raisons. Juste toi, te découvrir toi-même, t'apercevoir que tu as plein de beauté, puis plein de force, puis plein de potentiel. C'est la même chose que le potentiel que tu vois dans un enfant, mais là, c'est pas un enfant, c'est toi. C'est ça ma job, entre autres. Comme par exemple, mettons que j'arrive avec un client, je vais voir qui souffre, etc., sa vision du monde. Mon premier réflexe, c'est de voir où sont ses forces. 1, 2. est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'elle est consciente ou conscient de ses forces? Sinon, ça va être ma job de lui montrer ses forces. Et quand une personne sort de là, puis elle se voit différemment, elle devient courageuse. Puis après ça, on montre comment prendre des responsabilités. Mais on ne devient pas courageux juste pour être courageux, pour avoir une belle vertu. Ça prend quelque chose à défendre. Donc, c'est ça la priorité.
Puis il y a une bonne question qui vient d'entrer au 98985. Si une personne comme Kevin qui a trouvé toute sa force dans sa fille, s'il arrive quelque chose dans sa vie ou pour une raison X, il perd le contact avec sa fille, est-ce qu'il va perdre toute sa force par le fait même ou il va être
non.
capable de se valoriser ailleurs
oui,
avec cette force-là?
Oui, parce que ce qui est le fun, c'est que c'est généralisable. Okay? Quand tu prends des responsabilités puis tu commences à être fier de toi, tu portes tes propres comportements. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dépendant de sa fille. Si sa fille lui arrivait quelque chose, puis lui, il perdait tout, ça serait comme une drogue. Ça serait une forme de dépendance. Mmh. Puis là, ça serait pas sain, puis on l'entendrait, ça. On l'entendrait dans sa façon de se valoriser. Mais c'est pas ça, c'est pas sa fille. C'est, il est fier des choix qu'il fait versus sa fille. Et ça, c'est sa possession. Et avec ou sans sa fille, il va gagner. Il va gagner ça, puis il va pouvoir étendre ça à d'autres projets. Le projet de père, c'en est un projet. Et là, on n'a pas parlé de ses autres aspects de sa vie. Mais je suis convaincu qu'il garde cette même fougue-là envers d'autres projets.
On a Manon qui attend au téléphone. On va vous parler tout de suite après la pause. Manon, on doit s'arrêter quelques minutes. Vous sentez-vous une victime? Est-ce que vous avez tendance à vous victimiser, à blâmer l'environnement ou votre entourage pour tous les problèmes qui vous affligent? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Si vous aviez tendance à être une victime et maintenant vous en êtes sorti comme Kevin, on veut vous parler également. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc.
Ni blanc. Pour une vision plus large des choses, au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Alors, nous sommes de retour dans Ni Noir ni Blanc. Je vous rappelle que c'est la dernière édition de Ni Noir ni Blanc. Vous venez d'entendre d'ailleurs la promo parce que dès lundi prochain, c'est Nathalie Normando qui prendra la place de 10h à midi. Et nous, en attendant, mais il reste encore 1h15 à peu près à passer avec vous. Et on parle de victimisation ce matin. On a un paquet de sujets qui s'en viennent pour vous aussi pour la deuxième heure. Mais celui-là est particulièrement intéressant. Il y a plusieurs témoignages aussi au 98985. Manon est en ligne pour nous parler. Bonjour Manon.
Bonjour.
On vous écoute, Manon.
Mes sœurs disent que je me victimise, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. La raison est que je ne peux pas dénier mon passé. Je suis fière de où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. J'ai eu une mère alcoolique, un père qui m'a abandonnée, et j'ai vraiment bien réussi ma vie. Et puis, quand je parle du passé, moi, j'étais la plus jeune, eux autres, ils n'ont pas vécu les mêmes choses que moi, OK? Quand je parle du passé, ils me disent, t'es victimite, puis ta-ta-ta, puis tu vis dans le passé, puis je suis pas prête à oublier qu'est-ce qui m'a rendue si forte aujourd'hui.
OK.
Parce qu'ils m'ont pas payé d'études, ils m'ont rien, là. Puis je me suis débrouillée tout seule dans la vie, mais je trouve ça normal de parler de son passé.
Est-ce que vous en parlez souvent, Manon? À quelle fréquence vous diriez que vous en parlez?
Ben, j'en parle pas beaucoup, mais mes sœurs et moi, je pense qu'on a une petite relation toxique, ils habitent pas au même pays, puis tout ça, puis je pense que le fait que j'ai réussi ma vie contre toute attente, ça les choque un peu. Dans le sens que eux autres, ils ont été mariés, des enfants, puis tout ça, puis qu'ils ont eu des gens pour les aider dans la vie. Et puis, je pense que ça les agace.
Et ça les agace que vous soyez seuls et que vous ayez réussi seuls, c'est ça?
Oh non, ben que je suis pas seule, je suis en couple, là, mais j'ai réussi seule. Je me suis acheté mes propriétés toute seule, ce qu'ils n'ont jamais fait. J'ai un très, très bon travail.
Okay.
Mais où est-ce que je suis rendue aujourd'hui? C'est grâce à moi, puis c'est normal que j'en parle. Puis c'est normal que je me rappelle de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie.
Donc, eux, disent que vous faites de la victimisation parce que vous rapportez parfois les épreuves du passé, puis vous vous en servez un petit peu pour dire, ben malgré ça, je suis rendue là où je suis aujourd'hui. C'est ça?
Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Puis, eux, ils étaient plus vieux que moi. Donc, ils ont connu ma mère sobre. Et puis, ils n'ont pas été abandonnés par leur père. Moi, mon père, quand c'est venu le temps que mes parents se séparent, il a dit, ben, tu te souviens avec moi, tu vas avoir une meilleure vie, et ainsi de suite. Puis mes parents étaient nantis. Donc, il m'a pris, il m'a droppé dans le ghetto McGill, dans un 1,5. Je ne l'ai plus revu. Okay? Puis lui, pendant ce temps-là, il était à la cité avec sa jeune blonde. Puis je le voyais une fois par semaine, mais je ne savais pas où ce qu'il était.
OK. Bien, maintenant, écoutez, on va partir de ce que vous venez de dire, parce que la question est bonne quand même. Merci beaucoup d'avoir appelé. Guillaume, en fait, la question, c'est si je veux pas vanter mes succès d'aujourd'hui, mais disons être fier de mes succès d'aujourd'hui en disant ça a de la valeur ce que je fais aujourd'hui parce que dans le passé, j'ai vécu des épreuves difficiles. Est-ce que ça compte comme de la victimisation, ça?
Dit comme ça, non. OK. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là. Et puis, c'est cette intervention-là, parce que ça dépend quand est-ce que tu sors ta carte du passé. Mm-hmm. C'est ton timing d'intervention. Si à un moment, c'est vraiment la contingence là, des facteurs qui font en sorte que tu dis « Ouais, mais moi, en tout cas, c'est à cause que le passé... » C'est le timing. Pourquoi là, tu spécifies une souffrance dans le passé? Non, donc c'est là, mais là, on n'a pas l'indice là, présentement. Basé sur ce que j'ai entendu, je peux pas déterminer s'il y a un processus. C'est sûr que, tu sais, notre passé, là, il est différent pour chacun.
Ouais.
Il y a des gens qui ont plus souffert, il y en a qui ont des conditions plus favorables. Tu sais, c'est inégal le passé des gens. OK, la question, c'est à quel point tu t'appuies sur ces souffrances-là pour justifier ou renforcer ou appuyer quelque chose. C'est vraiment ça le comportement. Ce n'est pas le passé. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup et même beaucoup plus que Manon qui vient d'appeler, mais qui ne vont pas utiliser les mêmes informations au même moment.
Ouais.
Donc, mais le passé reste que c'est le passé. Ça, on fait partie de ça. Ça fait partie de nous. Puis c'est correct. L'histoire, c'est important. Puis on ne nie pas l'histoire. Donc, la victimisation, c'est le processus d'utilisation de ces facteurs-là dans l'instant présent.
Mais est-ce qu'un succès a plus de valeur, Guillaume, si il est accompli dans un contexte où, dans le passé, il y a eu des facteurs défavorables à ce succès-là? Autrement dit, si je viens d'une famille, par exemple, qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas pu me payer mes études, peut-être que j'ai même subi de la violence étant jeune, mais aujourd'hui, j'ai une belle carrière, et puis je réussis bien, puis tout est beau dans ma vie. Est-ce que mon succès a plus de valeur que la personne qui est partie d'une famille qui était fonctionnelle, par exemple?
Je pense que c'est comme demander ce que Dieu voit, là. C'est comme dire, est-ce qu'une pire souffrance que l'autre? Une des premières règles, c'est jamais tu compares les souffrances. Jamais. C'est un vécu personnel. Un succès, tu les compares pas. C'est un vécu personnel. Donc, je pense qu'il faut pas poser cette question-là. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est est-ce que je prends en charge ma vie puis est-ce que ma vie avance? C'est tout le reste, les succès. Moi, j'accrocherais vraiment pas là-dessus. Autant dans la comparaison des souffrances que la comparaison des succès.
On a le temps pour un dernier appel. C'est Nadine qui est avec nous. Bonjour, Nadine.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ben écoutez, moi, j'ai été élevée par une mère qui souffrait de victimite aiguë, comme on dit.
Mm-hmm.
Puis, en grandissant, tout ça, vers l'âge de 19 ans, j'ai été diagnostiquée avec une dépression. Alors, j'ai été suivie par une psychiatre. Et cette psychiatre-là a changé ma vie.
Okay.
Encore aujourd'hui, là, j'ai encore cette phrase-là dans ma tête, puis je pense qu'elle ne sait même pas à quel point elle a changé ma vie.
Non.
Je lui expliquais que je sortais avec un gars, puis que là, il m'avait laissé, puis que là, il me rappelait quand il voulait, puis il me disait qu'il allait venir me voir, puis finalement, il ne venait pas me voir. C'était un ci, c'était un ça. Mm-hmm. Puis elle m'a répondu, « Nadine, c'est qui tient le téléphone et qui l'écoute? »
Wow, c'est tellement bon.
On a-tu le nom de cette merveilleuse psychiatre-là?
Oui, c'est ça. Hey,
c'est qui?
Elle s'appelait Sophie Brosseau dans le temps, puis c'était une résidente.
Alors?
Elle était pas à Pinel, à côté de Sacré-Cœur.
OK. Mais mon Dieu, c'est excellent la phrase qu'elle vous a donnée.
Écoute,
ouais.
Nadine, merci. Malheureusement, il reste quelques minutes seulement. On va devoir se quitter. Mais Nadine, on va faire du pouce sur ce que vous venez de dire parce que c'est exceptionnel. Là.
Cette phrase-là, ça résume le choix à un moment donné de faire quelque chose. Comme je vous dis, là, une des choses les plus résistantes pour les humains, c'est de se sortir des schémas de victimisation. Et la pire chose possible qu'on peut imaginer, c'est une victimisation de groupe. Et là, on est en plein là-dedans. Les médias font la promotion de tout ça au nom des vertus, puis plein de belles décorations qui créent de la détresse et on n'est pas sorti du bois, les amis. Mais au moins, on est capable de prendre nos propres responsabilités. Puis si chacun fait ça, ça va bien aller.
Bien, c'est ça que j'allais dire, justement. On est dans une société aujourd'hui, j'ai l'impression, où le fait de prendre ses responsabilités individuelles n'est pas tellement valorisé. Ça se peut-tu?
Non. Exactement. Parce que c'est très difficile. C'est très confrontant. Et on est à une ère qui est très dans l'image, très instantanée, entre autres par les médias sociaux. Donc, tu peux te trouver des missions très grandioses en claquant des doigts, en faisant la promotion de grandes idées. Puis ça fait super, super beau, mais tu n'as aucune responsabilité là-dedans. Puis le problème, c'est que ta vie n'avancera pas. Ton cerveau le sait. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ta détresse augmente avec l'âge et tu entretiens le fait que cette détresse-là est corrélée à des facteurs extérieurs de toi. Donc, on ne peut pas avoir une pire glorification de la victimisation présentement.
Il reste une minute à peu près, Guillaume. Si on a dans notre entourage une victime chronique, quelqu'un qui se victimise constamment puis qu'on ne peut pas nécessairement couper les liens, soit parce que c'est notre sœur, c'est une amie qu'on aime beaucoup, bon, quelle est la meilleure attitude à adopter avec ces gens-là pour ne pas renforcer leur victimisation?
C'est de leur parler de leurs qualités, ce que vous voyez de beau dans cette personne-là, que des forces, que des qualités. Puis attention, il faut que vous les pensiez pour vrai. Mm-hmm. Il ne faut pas dire des fausses qualités jamais parce qu'on va le lire de toute façon, puis votre langage va monter, ça va être superficiel, ça va être du déjà vu. Il faut être précis, il faut vraiment voir quelque chose de précis dans cette personne-là. Et là, vous vous asseyez, faites un meeting, puis vous lui dites des qualités, des choses que vous aimez, puis vous l'expliquez en long et en large. Vous n'êtes pas obligé d'en dire 25 qualités. Une grosse qualité, une grande force, quelque chose, vous admirez, prenez 15 minutes pour l'expliquer en long et en large et ça va créer un précédent extrêmement positif et ça fonctionne.
Et rappelez-vous cette phrase de cette psychiatre, c'est qui tient le téléphone puis qui l'écoute? C'est merveilleux. C'est déjà la fin pour le segment de la victimisation. On doit s'arrêter pour la pause de putain de nouvelles et on vous revient pour la dernière heure de Ni Noir ni Blanc dans quelques minutes.